Radio Occitanie, l'émotion du pays.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Poupoupidou.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Page à page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h. Donc aujourd'hui, je reçois Serge Saint-Blanca, qui a écrit un livre. Bonjour Serge. Alors, qui a écrit un livre qui s'appelle L'œil de la montagne. Et je reçois également Christian, que vous connaissez en tant qu'animateur le mercredi soir pour l'émission Le Lien. Et
bonjour.
Qui est ici en tant que lecteur. Bonjour,
bonjour.
Christian. Alors voilà, donc nous allons commencer donc avec ce livre intitulé L'œil de la montagne, écrit par Serge Saint-Blanca. Donc je vais vous présenter peut-être un petit peu, ou il va se présenter comme un grand Serge. Alors vous êtes psychologue en fait au départ ?
Oui, tout à fait, oui, oui. Donc j'exerce en tant que psychologue, voilà, et...
Dans un établissement scolaire, vous êtes, voilà, vous n'êtes pas en...
Pas en libéral,
en
non,
libéral.
Non, dans une structure spécialisée, voilà, qui accueille des jeunes élèves, adolescents, et jeunes adultes aussi, qui rencontrent des difficultés motrices ou sensorielles.
Voilà. Et donc, ça va à peu près donc, de la 6e au BTS. Donc,
tout
ça couvre
fait, oui.
D'une dizaine d'années jusqu'à
20 voire 25 ans.
Voire 25 ans, d'accord. Donc, dans un établissement de Toulouse. Donc, avec, voilà, des donc ils ont tous soit un handicap moteur, soit sensoriel, c'est-à-dire déficience visuelle ou déficience auditive.
Tout à fait, oui, donc, oui,
d'accord.
C'est cela, oui.
Et vous êtes originaire d'Ariège ou...
Alors, je suis originaire de l'Ariège de par ma grand-mère, en fait. Voilà.
Parce que bon, il faut signaler que ce livre, donc L'œil de la montagne, l'histoire se situe en Ariège. Donc, c'est pour ça que je posais la question à Serge,
oui.
S'il était originaire d'Ariège, pour nos auditeurs et nos auditrices. Donc, vous avez, voilà, les grands-parents, enfin, votre grand-mère qui est en Ariège et vous avez passé vos vacances d'enfants et d'adolescents en Ariège.
Voilà, donc effectivement, j'ai été imprégné par ce village qui s'appelle Bédéiac, dans l'Ariège, à côté de Tarascon, près du col de Port. Et ce sont des moments qui m'ont marqué et qui sont ancrés en moi. Et bon, j'ai situé un petit peu ce livre dans cet espace qui pour moi était important et j'avais envie de transmettre un petit peu l'amour de ces lieux, de toute simplicité.
D'ailleurs,
toute
c'est, tout à fait,
voilà.
C'est tout à fait bien retranscrit dans le livre, je trouve, parce que le style bon, est simple et surtout, il y a beaucoup de descriptions des paysages d'Ariège. Je trouve que vous avez bien retranscrit. Moi, je connais pas bien l'Ariège et c'est vrai que j'ai apprécié quoi de lire les descriptions que vous en faites de la montagne ariégeoise, de toute cette nature. Je trouve que c'est très bien retranscrit. Enfin, j'imagine que pour ceux qui connaissent bien l'Ariège, ça doit être encore plus parlant que pour moi qui ne connais pas. Mais ça donne envie d'y aller, quoi, d'aller faire un petit tour par là-bas pour se rendre compte. Donc, on va reparler donc de l'histoire de ce livre. Donc, en fait, racontez-nous un peu l'histoire donc pour situer.
Mais l'histoire se passe en 1995 et c'est un homme d'une quarantaine d'années qui, pour des raisons diverses, n'a pas pu revenir dans le village de son enfance et qui saute le pas qui revient un petit peu se réimprégner de cet espace qu'il avait, on va dire, négligé pendant quelques années parce que c'était difficile pour lui de revenir dans ces lieux. Et il se trouve qu'en revenant dans cet espace, alors que j'ai voulu relativement sauvage, j'ai forcé le trait parce que c'est vrai que quand on est sur place, c'est pas tout à fait quand même
ce qu'on rencontre.
C'est
moins sauvage que... Ah d'accord.
Ouais, voilà, exactement. Donc quand il arrive dans cet espace qui est plus sauvage qu'il n'est réellement pour les besoins de l'histoire, ben, il se trouve absorbé par quelque chose qui le dépasse, une aventure qui lui arrive et qui fait qu'il se trouve en butte avec avec des malversations d'aucuns ont situé comme un polar environnemental. Voilà.
Ah d'accord, c'est un nom très très savant quoi. En fait, oui, c'est un peu comme un livre, c'est un peu une histoire un peu policière, mais enfin sans trop quand même, c'est pas trop policier, enfin c'est pas trop du suspense, et puis bon, l'histoire est simple, enfin je veux dire, c'est pas trop compliqué, c'est pas un truc ni d'espionnage, ni de... Voilà, très accessible, on va dire, ça reste agréable, je veux dire, c'est pas...
Je souhaitais qu'il y ait un fil conducteur, et qu'en fait, à l'issue de l'histoire, ben, le lecteur puisse se dire, ma foi, il n'y a pas de bouleversement, il n'y a pas d'éléments de surprise, mais j'ai pu lire un livre avec une démarche cohérente de bout en bout et avec un personnage qui pouvait suivre une trame relativement acceptable, qui puisse décrire, puisque le livre peut se lire sur plusieurs dimensions, mais qui puisse décrire un espace qui m'intéressait a priori. Voilà.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on va évoquer quelques personnages. Donc, le personnage principal. Alors, est-ce que c'est d'abord un peu autobiographique ? On peut poser la question ?
Je crois qu'on est tous traversés par son histoire, donc c'est vrai que quand on écrit quelque chose, quand on crée de manière générale, en toute modestie, il y a un peu de soi, mais après, bon, il y a des éléments qui sont indispensables pour mettre en place une structure cohérente, comme je disais tout à l'heure, mais donc il y a un peu de soi, mais il y a aussi les besoins de la narration.
Oui, donc après, il y a des éléments un peu imaginaires, un peu...
Par exemple, j'ai pris notamment quelques libertés par rapport à la géographie, de façon à ce que tout soit bien calé.
Oui, et par rapport au personnage également.
Oui. Alors, par rapport au personnage, il va de soi qu'il y a un personnage qui me ressemble un peu.
Voilà. Oui, le personnage principal vous ressemble
voilà,
un peu.
Tout à fait.
Il est psychologue, d'ailleurs.
Psychothérapeute.
Et psychothérapeute. Voilà, donc, il y a une similitude.
Une similitude, effectivement. Et pour l'essentiel...
Il a une moto.
Il a une moto aussi.
Il a la moto plus grande que la vôtre, apparemment.
Il a la moto que j'aurais souhaité avoir il fut un temps.
Ah, ben voilà, Christian, tu as très bien... tu as très bien transcrit, donc voilà, donc différente de... Et oui, donc il a une moto et...
Et après, donc, il y a un autre personnage qui est un personnage qui me tenait à cœur et qui s'est imposé quand j'ai construit l'intrigue. Il me fallait un personnage qui ait une forte personnalité, qui sortait du commun. Et là, je me suis vraiment très inspiré d'un ami d'enfance, donc que je connais de longue date. Et même si c'est romancé, lui n'a pas eu trop de difficultés à se retrouver dans ce personnage qu'il m'a autorisé à transcrire sur papier.
D'accord, oui. Alors, donc dans le livre, c'est Thibaut, hein, oui. Parce que donc voilà, le personnage principal c'est Guillaume, et celui dont vous parlez là, votre ami d'enfance, c'est Thibaut. Et bon, nous savons Christian et moi, parce que nous le connaissons aussi, nous savons à qui vous faites allusion en parlant de Thibaut, n'est-ce pas, Christian ?
Tout à fait, oui.
Voilà. Donc c'est vrai que même quand j'ai lu le livre, c'est vrai que j'ai tout à fait retrouvé les traits de cet ami commun que nous avons, qui est tout à fait bien retranscrit et par ça, parce que bon, il faut quand même dire qu'il est que Thibaut dans l'histoire et dans la réalité, il est malvoyant.
Tout à fait. Oui.
Donc il faut le signaler. Donc Christian qui est lecteur, qui a lu ce livre également et qui a peut-être une approche. Tu veux peut-être parler de
oui, moi,
ce que
éventuellement,
tu as ressenti.
Bien sûr. Déjà, par rapport au personnage de Thibaut, moi, il y a deux choses qui m'ont marqué, en fait. D'une part, ce que j'ai apprécié dans le livre, c'est qu'il se trouve que ce personnage est très, très, très malvoyant. On peut dire qu'il est presque aveugle. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que son handicap est quelque part secondaire, quoi. Il se trouve qu'il est non-voyant, voilà. Mais bon, le livre ne tourne pas autour de ce thème-là. Ça, j'ai trouvé vraiment intéressant. Et par contre, je sais pas, est-ce que c'est pour les besoins de la fiction ou est-ce que vous pensez que c'est... Est-ce que vous trouvez pas avoir poussé un peu les traits au niveau des capacités et que ça peut pas induire le public en erreur au niveau des personnes déficientes visuelles, en fait? Au niveau des sensations, de ce qu'il peut ressentir ou est-ce que c'est vraiment du vécu?
Non, je crois que, comme je disais tout à l'heure, il fallait un personnage hors du commun.
Oui.
Et là, il y a une part qui confine au fantastique, mais qui a priori, peut correspondre à quelque chose de l'ordre du crédible malgré tout.
Oui, parce que regarde, Christian, quand on connaît Thibault, alias notre ami commun,
c'est vrai, c'est quelqu'un qui
n'a pas peur de faire tout ce qu'il fait. Et que,
il me semble qu'il y avait une scène qui m'avait particulièrement marqué. C'est un moment, il y a je n'ai pas le livre sous les doigts ni sous les yeux, donc je ne peux pas citer vraiment le texte. Mais à un moment, en fait, bon, sans rentrer dans les détails, il y a besoin de lire un texte qui a été effacé, c'est assez difficile, quoi.
De la gourmette.
Voilà, le texte de la gourmette.
La fameuse gourmette.
Et ce personnage, donc Thibault, donc arrive en se concentrant très fortement. Alors vous qui êtes un peu adepte des arts martiaux, de ce genre de choses, apparemment parce que c'est, il y a un lien, je ne sais pas, et il arrive en se concentrant très fort avec par le toucher à déchiffrer le texte. Est-ce que c'est quelque
chose? Non, pas le texte, à déchiffrer quelques formes de lettres, et après par reconstitution ils arrivent à reconstituer un prénom.
Est-ce que c'est quelque chose qui paraît possible, ou c'est quand même du domaine du fantastique?
Je pense qu'il y a une exacerbation des sens chez certaines personnes.
Quand qui en sont dépourvues dedans. Et...
Ça peut être en forme de compensation,
oui,
effectivement.
Tout à fait.
Quant à dire que c'est possible, je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui. Je ne peux pas me prononcer, effectivement.
Donc, il ne faut peut-être pas en faire une généralité.
Mais
je pense qu'il y a des personnes, je pense, qui arrivent à avoir ce... Bon, là, en l'occurrence, c'est le toucher qui est exacerbé, mais je pense qu'il peut y avoir des personnes qui ont un sens beaucoup plus développé qu'un autre et que certaines personnes.
Oui, et en plus, dans le livre, ce personnage est adepte du yoga et de la sophrologie, donc il a un rapport à l'existence qui peut être différent.
Tout à fait.
Et il peut voir ou percevoir des choses qui sont peut-être plus complexes pour d'autres personnes.
Oui, donc je pense qu'effectivement, c'est pas que du fantastique. Enfin, moi, c'est ce que je pense aussi, Christian. Je sais pas
tout à
si
fait,
toi...
Ouais. Non, mais moi, j'avais juste... C'est pour ça que j'ai juste ça, parce que j'avais peur que des fois, dans l'esprit du lecteur, ça peut se créer des amalgames sur les... Ça peut se confirmer un peu certains préjugés qu'on peut avoir des fois. Mais c'est vrai que, par contre, ce qui compense, c'est que vraiment, comme je disais, le handicap du personnage est secondaire, qu'il est dans l'action, il est vraiment dans l'action, quoi. On oublie qu'il est... qu'il a un handicap, il agit.
Oui, d'ailleurs, au début, bon, si on ne nous le disait pas, si ce n'était pas écrit, on...
Il est en train de couper du bois, ça, c'est
oui,
c'est
coupe, voilà, la première scène, voilà, il coupe du bois et on n'a vraiment pas l'impression qu'il n'y voit pas.
Mais ça, c'est une réalité.
C'est une réalité. Il coupe du bois.
Il a été confirmé par la personne. Oui,
il a coupé du bois et il vaut mieux effectivement s'éloigner un peu quand il s'engage dans ce genre de choses, parce qu'il peut y avoir des projections involontaires de billes. C'est le personnage, oui, qui est tout à fait apte à faire ce genre de choses.
Il me l'a confirmé, tout
plus,
à fait.
Et plus.
Oui, oui. Mais on se retrouve après une petite pause musicale.
Page à page, Claire en ville.
Poupou pitou.
On partira de nuit, l'heure où l'on doute que demain revienne encore. Loin des villes soumises, on suivra l'autoroute, ensuite on perdra tous les nords. On laissera nos clés, nos cartes et nos codes de prison pour nous. Tous ces gens qu'on voit vivre comme s'ils ignorent qu'un jour il faudra mourir, et qui se font surprendre au soir aux belles. On ira, on partira, toi et moi, où je sais pas, et que les routes qui sont belles, et peu importe. Suivra les étoiles et les chercheurs d'or. Si on en trouve, on cherchera encore. On n'échappe à rien, pas même à ses fuites. Quand on se pose, on est mort. Oh, j'ai tant obéi, si peu choisi, petit, et le temps perdu. Nous envoler nos douleurs. La tu me crois, mais un jour on partira. Si tu me crois, belle, un jour.
Page à page, Clérambile.
Poupou pitoup. Nous revoici dans votre émission Page à Page avec Serge Saint-Blanca et Christian. Donc nous continuons à parler du livre L'œil de la montagne, donc qui se situe, dont l'histoire se situe en Ariège, comme nous le disions tout à l'heure. Et donc je voulais demander à Serge comment lui était venu. Donc il est, nous rappelons qu'il est psychologue dans un établissement scolaire spécialisé de Toulouse. Et donc comment lui est venu le goût et l'idée donc d'écrire un livre qui est quand même il y a au moins 340 pages, 350
pages. Oui, dans les 350.
Oui, donc c'est quand même un livre conséquent. C'est pas le petit livre de 50 pages. Donc comment ça vous est venu, comment ça s'est passé pour vous ça...
J'ai déjà un goût de l'écriture qui est relativement ancien, mais je n'avais jamais concrétisé. Et un jour, je me suis mis devant mon ordinateur, j'ai tapé la première ligne, j'ai structuré une histoire et qui après s'est peaufinée, bien entendu. Et j'ai écrit pendant 2 ans sur mes temps de loisirs.
D'accord, donc c'est un livre là, qui a mis 2 ans à naître, se finaliser. Et après, donc, comment ça se passe une fois que vous avez donc toute l'histoire dans votre ordinateur? Comment après se passe la suite du parcours de l'écrivain là qui vient de terminer un livre? Comment ça se passe? Oui, ça doit pas être, c'est voilà. Un peu le parcours du combattant, j'imagine.
Livre, c'est pas évident parce qu'il faut essayer déjà de saisir comment les structures éditoriales fonctionnent. Mais j'ai envoyé un certain nombre de manuscrits à des éditeurs en essayant de cibler un petit peu par rapport à des éditeurs qui étaient susceptibles de s'intéresser à ce genre d'histoire, ce genre de petite aventure. Et au bout de quelques temps, après, quelques réponses négatives, des réponses d'encouragement aussi, un éditeur, monsieur Christian Lacour, des éditions de Lacour, m'a dit, ben voilà, je suis intéressé, est-ce qu'on peut aller plus loin? Et donc, voilà, il a accepté d'éditer ce livre. Voilà. Donc,
c'est une maison d'édition qui se situe en Ariège?
Qui se situe à Nîmes.
À Nîmes, d'accord. À Nîmes.
Donc, M. Lacour a pensé, puisqu'il avait une collection qui justement se situait dans l'Ariège, ça pouvait effectivement être une opportunité, qu'il pouvait présenter ce livre essentiellement sur l'Ariège dans le cadre de cette collection.
D'accord, donc en fait, il est disponible uniquement en Ariège, ce livre, dans les librairies d'Ariège.
Dans les librairies, les points presse de l'Ariège. Et pour se le procurer, on peut aussi faire une commande directe
aux éditions Lacour à Nîmes.
À Nîmes.
Dont autant donner l'adresse maintenant, comme ça sera fait. Donc soit dans les librairies d'Ariège et les points presse, soit directement à la maison d'édition, donc la maison d'édition Lacour, qui se situe, donc les éditions Lacour au Lait, qui se situe 25 boulevard Amiral Coubet, C-O-U-B-E-T, 30 000 Nîmes. De toute façon, je vous rappelle, si vous n'avez pas eu le temps de noter des références de titres ou d'adresses ou de téléphone, vous n'hésitez pas à appeler la radio 05 61 80 40 40 et je vous donnerai le renseignement. Vous demandez donc Clérambile, page à page, et je vous donnerai le renseignement en laissant vos coordonnées. Donc voilà, donc les éditions Lacour à Nîmes. Et sinon, avant d'être édité aux éditions Lacour, il a été édité, ce livre a été édité en braille, je crois.
Oui, tout à fait, oui, en braille.
Par le CTEB.
Par le CTEB.
Enfin, on va dire ce que c'est le CTEB. Christian, tu veux bien nous expliquer
Oui, le CTEB, donc, c'est un centre d'édition en braille qui est implanté à Toulouse, donc. Et donc qui est transcrit un certain nombre d'ouvrages et également de périodiques en écriture braille.
D'accord. Donc il a été d'abord édité en braille, c'est un choix ou comment ça s'est passé
C'est une opportunité, on va
une
dire.
Opportunité.
Disons que c'est par l'intermédiaire de mesdames Tiziane Mendoza et Monique Truquet, qui sont des responsables du CETEB, qu'en fait cette aventure en braille a commencé. à savoir que le livre a attiré l'attention de ces personnes qui m'ont proposé, avant que ce livre soit donc édité en noir, de faire une version braille intégrale et braille abrégée. Et donc, effectivement, j'ai accepté avec gratitude ce type de proposition.
Oui, parce que ça élargit encore plus le public susceptible d'être intéressé par votre livre.
Totalement.
Et donc là, ces livres, donc cette édition en braille abrégée, en braille intégrale, peut être demandée au CTEB ou comment ça se pour les personnes malvoyantes et non-voyantes
Oui, directement au CTEB.
Directement au CTEB.
Et avec un tarif privilégié pour les particuliers.
D'accord.
Je peux donner les coordonnées éventuellement ?
Ah oui, oui, avec plaisir, Christian.
Donc pour se procurer cette édition, le plus simple, c'est de téléphoner au CTEB. Donc au 05 61 57 95 89, 05 61 57 95 89. Il faut signaler aussi qu'un exemplaire en braille intégral de L'Œil de la Montagne est disponible en prêt à la médiathèque José Cabanis dans le département L'Œil et la Lettre.
D'accord.
Il est actuellement disponible, donc profitez-en.
Ah d'accord, personne ne l'a emprunté là actuellement.
Non, d'après ce qui est indiqué sur le serveur en tout cas.
Sur le serveur, d'accord. Merci Christian du renseignement. Donc pour les personnes qui voudraient lire L'Œil de la Montagne et qui ont besoin donc de l'édition en braille, voilà, il est disponible à la médiathèque et sinon vous adressez au CTEB donc dont Christian vous a donné le numéro de téléphone. Et Christian voudrait dire, tu voudrais encore dire...
Oui, j'avais une petite question pour rester sur le même sujet pour le moment.
Oui.
Je veux savoir si vous avez envisagé, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui commencent à le faire parce que ça intéresse autant d'ailleurs des personnes déficientes visuelles que des personnes voyantes qui apprécient ce genre de lecture. De plus en plus, apparemment, est-ce que vous avez envisagé d'enregistrer votre livre sur support CD, par exemple, à destination des lecteurs ?
Écoutez, oui, l'envisager, mais effectivement, après, il faut voir si techniquement c'est possible et s'il y a un public intéressé. Mais,
Donc, par exemple, pour le prochain, parce que je sais que vous êtes, donc vous avez écrit, sans divulguer plus que ce qu'il ne faut, vous avez écrit un nouveau, vous avez écrit de nouveau, donc c'est une nouvelle, là, cette fois-ci, qui est actuellement chez divers éditeurs, en attente, donc, de voir ce que ça peut donner. Oui. Et donc, est-ce que, si celle-ci, donc, intéresse un éditeur, ce dont je ne doute pas, d'ailleurs, est-ce que vous le proposeriez, est-ce que vous proposeriez à cette maison édition, donc de le faire en noir et éventuellement également en support CD.
Oh ben écoutez, tout à fait, moi je suis ouvert à toute proposition et je serais effectivement ravi si cette nouvelle intéressait un éditeur en particulier.
Mm-hmm. Oui, et que donc que ça
ma question est un tout petit peu différente en fait. C'était très lié quand même, mais c'était de savoir est-ce que ça vous intéresserait comme expérience d'enregistrer vous-même votre propre œuvre, de la lire à haute voix comme le font de plus en plus d'auteurs en fait.
Ouh là, je ne m'en sens pas a priori capable, mais on va peut-être un peu s'y essayer.
Et peut-être que c'est pas toujours...
Ah oui, j'avais pas saisi non plus.
Effectivement, c'est pas toujours possible, quoi, mais je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui commencent à le faire, et certains disent que ça les a enrichis de lire ce livre de cette façon, quoi. Notamment avec les éditions Lire dans le Noir qui font beaucoup ce genre de choses.
Écoutez, pour moi, c'est vrai que la question reste ouverte. Pourquoi pas, mais bon, c'est un challenge, oui.
Oui, mais bon, voilà, pourquoi pas. Il faut voir ce qui est possible, et puis si on se le sent hein, aussi, hein, c'est pas toujours. Donc, on peut dire quand même le titre de cette nouvelle, si on la voit là dans quelques temps dans les.
Hein ? Alors, c'est Ascension en Do majeur.
Voilà, et ça, sans divulguer trop, ça parle un petit peu. Donc, c'est une nouvelle. Donc, c'est pas un roman, c'est pas un récit. C'est une nouvelle.
C'est assez court, effectivement. C'est assez court. Ça se lit relativement vite. C'est un texte qui se veut un texte plein d'espoir, même si l'écriture est moins légère que L'Œil de la Montagne. Mm-hmm. Mais voilà, c'est un texte d'ouverture. Voilà.
D'accord. Bon, ben j'espère qu'on aura l'occasion de le découvrir dans quelques temps. Vous nous tiendrez au courant, Serge.
Écoutez, je n'y manquerai pas.
Et pour terminer, Christian, tu voulais ajouter quelque chose sur L'Œil de la Montagne
Éventuellement, oui. Mais là, je voulais dire que c'est vrai que moi, je vous conseille fortement ce livre parce que c'est vrai qu'on est vraiment captivé par l'aventure. Et aussi, ce qui est vraiment agréable, c'est aussi tout ce qui est description. Je trouve, c'est pas de la description, il ne faut pas avoir peur non plus. Hein, c'est pas non plus. de la littérature du 19e siècle, ça se lit très bien, mais c'est vraiment très agréable. Je trouve les portraits qui sont faits des personnages typiques qu'on peut trouver dans ce genre de petits villages, c'est vraiment très agréable.
Même c'est vrai, pas, oui, je pense à la.
Ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, je précise pour Cédric.
Oui, non, c'est vrai que.
Et oui. Donc, et ensuite aussi, donc le côté aventure, c'est vraiment très romanesque, quoi. C'est.
Oui, non, c'est vrai que c'est très. Moi aussi, j'ai été très très captivée par ce livre parce que bon, il y a beaucoup de suspense et puis moi, j'ai beaucoup apprécié le très. Enfin, c'est pas de l'humour, mais enfin le petit clin d'œil. Le départ, donc, il fait un crochet par un petit par un endroit qu'il se rappelle quand il était adolescent et puis il va pour être tranquille, pour se faire un petit quart d'heure de détente qu'il ne peut pas se faire à cause d'une chèvre qui arrive pour lui manger son paquetage parce qu'il est en sac. Cadeau oui, en moto. Oui. Et à la fin, la fin du livre, on retrouve, il rentre, donc il fait le chemin inverse, il rentre sur Toulouse, il part de l'Ariège, il rentre sur Toulouse après donc toute cette aventure qu'il a faite avec Thibaut. Et il repasse, il fait le même petit crochet en sens inverse, il s'arrête au même endroit. Là, il n'y a plus la chèvre. Et puis, le petit quart d'heure, bah, finalement, se transforme. Il va rentrer peut-être sûrement plus tôt. Enfin, on devine qu'il va rentrer plus tôt que prévu à Toulouse parce que finalement, son petit quart d'heure va être écourté parce que ce qu'il trouve dans son paquetage n'est plus en état de fonctionner.
Exactement, ne correspond pas au
voilà. Oui. Donc, moi, j'ai adoré ce trait d'humour. Enfin, ce petit clin d'œil. C'était un clin d'œil.
C'était un clin d'œil, tout à fait.
Par rapport à l'adolescence, voilà, par rapport à un passé. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais oui, Christian, tu voulais.
Oui, je voulais savoir par rapport, parce qu'il y a quand même une grande part, l'importance de la nature et du cadre, du terroir, oui, quoi, dans ce livre aussi, quoi, ce qui est intéressant, parce qu'on est aussi sur Radio Occitanie. Oui. Je voulais savoir s'il y a quand même un petit côté, sans forcément un engagement politique, mais un petit côté militant, un peu, amour de la nature, écologie, etc., chez vous, quoi, qu'on retrouve dans ce livre, quoi, en fait.
Ben, il y a une attente, enfin, comment dire, une sensibilité particulière, effectivement, par rapport à la nature, et puis une imprégnation. En lien avec l'Occitanie.
Ah d'accord. Ouais, donc je vous recommande ce livre. Enfin, nous vous recommandons ce livre, L'œil de la montagne, écrit par Serge Saint-Blanca. Pour vous le procurer, vous n'hésitez pas à appeler la radio 05 61 80 40 40 et je me ferai un plaisir de vous redonner les coordonnées. Je remercie Serge d'être venu nous présenter
c'est moi
ce
qui
livre.
Vous remercie.
Merci beaucoup. Merci à Christian.
Merci Claire.
Et à la semaine prochaine, je recevrai Maudy Pio pour son livre Mes yeux s'en sont allés. À la semaine prochaine. Au revoir. Il est 10h, vous écoutez Radio Occitanie. Je vous laisse en compagnie de Bénédicte pour le flash culturel.
Radio Occitanie.
Occitanie de Zours. Les informations culturelles.
À 17h, et bienvenue à tous dans ce flash culturel du jeudi 28 avril sur Radio Occitanie.